Deezer. Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de SoFoot.
Football Recall.
Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les jeudis, sur les sites de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on te raconte ce qui va se passer du vendredi au dimanche soir.
Avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, devenir pilote de bobsleigh, dévaler la piste glacée du week-end, enchaîner les virages à 150 à l'heure et porter une combinaison en lycra.
Oui, j'en rêve. Je m'appelle Thomas.
Et moi je m'appelle Mathieu. Et comme toutes les semaines, on vous raconte les grandes histoires de ce week-end de foot. Et voici le sommaire de ce 7e numéro.
Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres.
Cette semaine dans Football Recall, notre reportage s'intéresse à la passion des footballeurs. Alors pas les grosses voitures, pas les visites chez le coiffeur, non, on va parler de la sieste, du gros dodo en pleine journée.
Un joueur de foot, comme n'importe qui, il va me dire « je dors de telle heure à telle heure quand tout va bien ». Et ensuite, je lui dis, chaque fois que vous avez un coup de pompe, chaque fois que vous avez sommeil, eh bien, faites une petite sieste.
Grosse journée dimanche en Ligue 1 avec un joli enchaînement Lyon-Saint-Etienne et PSG-OM. Notre conseil, ne sortez pas de chez vous et remettez des piles dans la télécommande.
Les écrans servent de tétine, de doudou, voire de nounou.
La passion du foot, ça n'a pas de prix. Enfin, si, un peu quand même quand on s'appelle Pep Guardiola et qu'on doit choisir entre un contrat à Wigan et un autre au Qatar. Et enfin, Football Recall vous dévoile en exclusivité les banderoles que déploieront les ultras dans toute l'Europe.
Cellulite, C-E-L-L-U-L-I-T-E.
Football Recall.
Et comme chaque semaine, on est accompagné par deux journalistes de l'équipe SoFoot et Society qui viennent se relayer. Aujourd'hui, on accueille Florian Lefebvre. Comment ça va?
Ça va super. Salut à tous.
Salut Florian.
On sent le pro, on sent le motivé.
Oui.
Hein.
C'est concis, c'est clair, c'est précis.
Florian, tu es journaliste pour SoFoot.
Ouais.
Comme le veut la tradition, on va te demander ton ASC, Age Sex Club.
Alors, j'ai 23 ans, je suis un homme et je supporte le Paris Saint-Germain depuis un but de Fabrice Fiorez au Vélodrome.
On t'a pas demandé de raconter ta vie.
À chaque fois qu'on est un supporter du PSG, à chaque fois, il précise depuis quand.
Donc tu dis depuis combien?
Depuis un but de Fiorez en 2003. Au Vélodrome.
Ça fait une quinzaine d'années, quoi.
Et après, il m'a brisé le cœur.
Oui, après, il t'a trahi. Eh oui, comme tout le monde. On accueille un nouveau dans la bande. Et quand je dis bande, j'ai envie de me pendre parce que j'ai l'impression d'introduire Barna Mabi et Titoff. Donc, je vais dire dans l'équipe, Swan Borsalino. Swan, ça va?
Salut tout le monde. Tout va
ASC,
bien.
Swan.
ASC, alors j'ai 26 ans. Mm-hmm. Je crois que je suis un homme. Ouais. Et je suis supporter de l'Olympique de Marseille.
Enfin.
Enfin, toi, tu l'attendais.
Je t'avouerais que j'en pouvais plus des mecs de l'Est.
Alors, est-ce que tu es fan de l'OM depuis une fameuse tête de Basile Boli? Parce que tous les supporters de l'OM disent...
Ce serait mentir, parce que je pourrais te raconter que j'ai vu la main de Vata, mais j'avais un an et demi. Donc non, je suis supporter de mon père, c'est une maladie que, de l'OM, pardon, parce que c'est une maladie que m'a filé mon père.
Ah, d'accord. Voilà. Donc, il t'a filé d'autres maladies?
Je sais pas encore.
On verra bien plus tard.
Bon, je suis à moitié asiatique, ça c'est peut-être... voilà. C'est mais non, pour le moment, je ne sais pas. J'ai supporté un brin le FC Metz aussi, comme vos...
C'est honnête.
Parce que quand j'étais petit, j'étais fan de Robert Pires. Voilà. Et du coup, quand Pires s'est assigné à Marseille, mon père s'est dit, tiens, voilà, mon fils, bienvenue à Marseille.
Et Pouget, non? T'aimais pas Pouget?
Moins, je sais pas pourquoi. Peut-être un délit de faciès, je sais pas.
Sale gueule, quoi. Est-ce que ça va, déjà?
Mais ça va toujours quand on se retrouve.
J'ai l'impression que je suis avec deux fans des JO devant moi, non? Swan et Mathieu.
Moi, je suis un peu fan.
Moi, je suis fan de biathlon. Depuis longtemps, en fait.
Le fameux. Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu es le footix du biathlon?
Non, alors justement, c'est un truc qui me dérange. C'est un phénomène qui me dérange un peu parce que, je vais te raconter une petite anecdote. Je goûtais devant Eurosport à l'époque où il y avait Raphaël Poiré qui gagnait des titres avec sa femme qui s'appelle sa femme Livrette, norvégienne.
Mathieu, tu dis oui. Qui sont ces gens?
Eh bien, Raphaël Poiré, mais c'est un immense sportif.
Ouais,
la lutte Poiré-Björn Dahlen, c'est mythique.
Et donc, d'ailleurs, Ole Einar Björn Dahlen, qui est un immense champion, quasiment le plus grand champion de l'histoire du biathlon, qui n'est pas au JO cette année. C'est un peu un grand drame chez les Norvégiens.
Ça me dit quelque chose, oui, Björn Dahlen. Ouais.
Moi, les gars, je revendique le fait d'être un footix du biathlon.
Un biathlonique.
Je regarde juste les JO.
C'est très à la mode. Alors, cela, fais attention. C'est les fans du Super Bowl. rôle, mais seulement une fois par an.
Et seulement pour le concert au milieu.
Pour moi, Martin Fourcade, c'est le nouveau Tom Brady. C'est-à-dire que tu t'intéresses à lui une fois par an, pendant trois jours.
Je suis pas sûr que sa meuf soit Gisèle Bündchen, par contre. Mais
Il aimerait bien, je pense. Et pourquoi tout le monde parle de Martin Fourcade? Pourquoi il faut le respecter?
Moi, ce que j'aime chez lui, déjà, c'est que je trouve que c'est très dur d'avoir une once de charisme dans cette tenue.
Oui.
Déjà, je trouve ça très fort.
D'avoir, avec un fusil, déjà.
Voilà, d'avoir de la virilité et du charisme dans cette tenue, c'est très fort. Et ensuite, en fait, je pense que si ça se trouve, j'aimerais moins ça si j'essayais. Mais en fait, je trouve fou le fait d'arriver à tirer à cette distance-là après avoir fait du ski de fond. Je trouve ça dingue.
C'est le combo des deux en fait. Parce que le tir tout seul, on s'en fout complètement. Pareil, le ski de fond classique, ça ressemble à rien. Mais les deux en même temps, en fait, ça fait un sport.
Mais c'est quoi, c'est l'impression d'avoir un super héros devant toi, genre
C'est plus l'impression d'avoir un Français qui gagne et qui a du mental, si tu veux.
Ça, c'est rare.
C'est quand même super important. Ouais, c'est une icône pour ça. Moi, j'aime beaucoup le sport, j'aime bien les champions. Mm. Et t'as très peu de champions français finalement par rapport à ça. Et du coup, j'ai bien cru, parce qu'il s'est déchiré sur une des courses quand même. J'ai bien cru qu'il y a eu une grosse fracture mentale. Il était à 18 sur 18 au tir. Il lui fallait une des deux dernières balles pour être champion olympique et il l'a raté.
C'était sur l'individuel.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une gasquet.
Voilà, exactement.
Tu me confies.
Exactement.
On s'effondre.
Voilà. Et du coup, c'est cool d'avoir un champion comme ça. Voilà, même si je comprends ce que les gens lui reprochent. Mmh. Il y a un côté un peu genre idéal qui se mêle de tout, qui parle de Benzema, etc. Alors que bon, c'est pas du tout ce qu'on lui demande.
Ouais.
Mais je trouve que c'est un bon exemple, c'est un bon mec.
Je peux poser une question?
Oui, vas-y.
Soit on parle foot, soit je vous enchaîne sur le short track.
Non, alors ça va, ça ira.
Ok.
Bah, c'était notre petit moment stade 2 finalement.
Voilà.
Et votre week-end de foot commence ce vendredi soir, vendredi 23, en Espagne.
Vendredi, 20h.
Et vendredi soir, c'est la trouille au ventre que les joueurs du Deportivo La Corogne rentreront sur le terrain. Le club du nord de l'Espagne est avant-dernier du championnat et reste sur 9 matchs sans victoire. Pire, ils n'ont pas marqué de but depuis 3 semaines. Alors pour essayer de se sauver en Liga, qu'est-ce qu'on fait?
On recrute.
On change d'entraîneur, c'est grand classique, on vire l'entraîneur. Donc le Super Deport, c'est son nom du Deportivo La Corogne, le Super Deport a recruté un nouvel entraîneur.
Frédéric Hans?
Non, ça aurait pu.
Bientôt libre, ouais.
Clarence Seedorf.
Oui, bien sûr.
Oui, le grand Clarence Seedorf.
Les gros mollets.
La frappe de Mulet.
Le Real Madrid et surtout le Milan AC. Alors, le problème, c'est Clarence Seedorf.
Excuse-moi juste, le souvenir de Seedorf que t'as, c'est les gros mollets.
Ouais, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, figure-toi, au Palais Royal et il a des mollets incroyables.
Au Palais Royal.
Des mollets incroyables.
Non, en fait, il y a eu un événement juste avant l'Euro. C'était un match entre légendes pour un événement, pour une marque d'horlogerie, bref. Mm-hmm. Et Clarence Seedorf, ses mollets, c'est vraiment pas possible. C'est pire que Roberto Carlos, en fait.
Moi, je garde de lui le fait qu'il se nourrissait, il était tellement costaud que sa mère lui donnait du manioc quand il avait 2-3 ans. C'est histoire vraie,
histoire raciste, les deux à la fois, quoi. Tu vois, on a un petit côté RTL.
Mais pourquoi le manioc serait racialisé?
Pour moi, le manioc, c'est Koh-Lanta. Hein.
C'est pas. Donc, bref, Clarence Seedorf a peut-être des gros mollets, mais il n'a pas vraiment un gros CV d'entraîneur. Parce qu'il il a entraîné au Milan AC, ça a duré 4 mois.
Oui.
Il s'est fait virer, puis il est parti au Shenzhen Football Club, en deuxième division chinoise.
Shenzhen, d'accord.
Ouais, donc voilà. Donc, pas gros CV d'entraîneur. Et en fait, le problème du Deportivo La Corogne, c'est pas tant l'entraîneur, c'est les gardiens.
Ah.
Parce qu'ils se prennent but sur but, c'est la pire défense de la Liga. Oui. Et ils ont essayé les 4 gardiens de l'effectif.
Ils en ont 4.
Donc, déjà quand on a 3, t'es content, et là, ils en ont 4.
C'est fou, ça, déjà.
Et ils ont essayé les 4. Donc, je vous propose.
Tu nous fais un quiz sur quoi on doit reconnaître les arrêts des mecs.
Non, le jeu, ce sera tout à l'heure.
Ah, ok.
Mais c'est une espèce de The Voice. C'est This is the Goal.
Ouais.
Donc, je vais vous donner les 4 candidats.
Vas-y.
On commence avec le titulaire, Ruben Martinez. Mm-hmm. Ruben Martinez, 15 matchs, un but encaissé toutes les 35 minutes.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Bon, c'est
bon ratio.
Allez, suivant.
On a le numéro 2, Costel Pantilimon, qui est roumain. 6 matchs et un but pris toutes les 60 minutes.
C'est mieux.
Sinon, on a aussi en magasin Francis Ouzoo. Un Nigérian, 2 matchs, 2 buts encaissés. Là, en ratio, on est plutôt pas mal.
Là, personne n'ose mettre de vannes parce qu'on a fait des vannes sur le manioc juste avant. Non. Tout le monde se regarde.
Et enfin, on a le petit dernier.
Oui.
Premyslo Titon, désolé pour lui, il est polonais. Une seule rencontre et 4 pions dans la musette.
Joli. Titon, il est polonais.
Donc voilà, donc en gros, t'as 4 gardiens et le meilleur a pris 2 buts en 2 matchs.
Donc c'est un gardien qu'il faut recruter, peut-être.
Alors, moi, j'ai une solution pour la Corogne.
Vas-y.
Il faudrait qu'ils mettent dans les cages leur attaquant Lucas Pérez, qui est prêté par Arsenal.
Ok.
Parce que de toute façon, devant, il sert pas à grand-chose.
Ouais.
21 matchs, 4 buts.
Ouais.
Et en plus, je pense qu'il a besoin d'un nouveau défi pour se relancer dans sa carrière, parce qu'il a trouvé sur les murs de sa maison un tag qui disait « Lucas Pérez, tire-toi » et un voisin a rajouté en dessous Lucas n'habite plus ici, sale con.
Voilà. Il peut prendre un gardien pour garder son sa maison, non?
Oui, ouais, il y en a quatre.
Il y a besoin, ouais.
Donc je peux, clairement, je pense qu'on a un entraîneur inexpérimenté, oui. Des gardiens qui marchent pas, voilà, qui marchent pas, un attaquant qui marque pas. Je pense qu'on peut dire que la Corogne, c'est un club qui sent la win, quoi.
J'avais une question pour Lucas Pérez. Ils sont comment ces mollets?
Florian l'a croisé au Quai d'Orsay, au musée d'Orsay.
Je vais faire une expertise. Je vais aller tout de suite regarder ses photos après l'émission. Je vous en dirai plus.
D'accord.
Lucas Pérez, qui aurait dû être le Mitroglou de l'OM. Hein. Quoi qu'il arrive, on serait foutu de la gueule d'attaquant de l'OM. Hein. Donc,
oui, ça, voilà. C'est vrai, ça. Alors, on enchaîne.
Football Recall. Samedi, 10h16.
La semaine dernière, Simon s'est moqué des fictions de TF1. Et on a dû se séparer de lui, Mathieu. Hein, tu te rappelles, coup de fil. Enfin, bon, Swan, toi, tu n'as rien contre la Une.
Attention à la marche. Ouais, génial. Très bien. Freshman, c'est parfait.
Bah, c'est super, on adore ce discours. Alors, Swan, tu vas nous parler des banderoles de ce week-end, parce que tu sais ce que les supporters vont déployer.
Exactement. Ah. Alors, on va parler un peu d'Espagne quand même, car je vous ai écouté la semaine dernière et il n'y a pas que dans le nord de la France qu'il y a du chômage.
Ah. Voilà.
Une bonne nouvelle.
Voilà. C'est vrai.
Donc, samedi à 18h30, Leganés, situé dans la banlieue de Madrid, oui. Et aussi dans la banlieue du classement de la Liga, 13e, reçoit Las Palmas, situé dans les Canaries et aussi situé dans les Canaries du classement de la Liga, soit très très loin du leader Barcelone. Voilà. En crise, le club, ils ont eu une idée super, recruter Samir Nasri. Donc là, les mecs, ils sont en train d'essayer de recruter Samir Nasri, ils n'ont pas une thune. Et
généralement, quand tu penses à recruter Samir Nasri, c'est que t'es mal.
Voilà. Tu viens de dire Samir Nasri.
Oui, et t'es aussi mal quand tu penses à Samir Nasri pour ton film ou ta pièce.
Peut-être que Samir Nasri va venir en taxi à Leganés, ouais. Hein, ou à Las Palmas, pardon. Si. Et du coup, ouais, donc comme si c'était pas si compliqué financièrement, ils vont peut-être donner un salaire, un pont d'or à Samir Nasri qui va venir jouer là.
Bien vu.
Et du coup, sympa, les supporters de Leganés soutiennent leurs visiteurs en disant « Palmas, tu as écrit Marie, demande tes royalties à Laetitia. » Voilà. Donc, au moins pour pouvoir payer peut-être le billet d'avion.
Bien sûr.
Pas dit que Laetitia lâche... voilà.
En ce moment, ça va pas. Hein.
Voilà. C'est un peu dur.
Une autre banderole, peut-être.
Alors ouais, du côté de Lyon, on se prépare déjà pour le derby de dimanche.
Oui.
Pour rappel, c'est quand même un derby important dans le sens où bon, Lyon piétine pas mal. Et surtout, l'ambiance va être chaude car Nabil Fekir avait piétiné les Verts et c'était bien foutu d'eux avec une célébration maillot qui a fait le tour au moins de la France, si ce n'est du monde, parce que tout le monde s'en fout de la Ligue 1, de toute façon.
C'est vrai.
Voilà. Et le problème, c'est que voilà, Lyon, depuis qu'ils ont fait leur mug après la victoire contre le PSG, ils n'ont pas gagné un seul match.
La fameuse malédiction du mug.
Pire, ils ont perdu leur président sur blessure. En effet, Jean-Michel Aulas sera absent du match car il a été opéré au genou.
C'est pas vrai.
Ce qui est très gênant quand on tweet avec ses pieds.
Voilà. Donc, encore un mec qui a des problèmes de mollets.
Voilà. Donc,
c'est vraiment une émission pour fétichistes. Ouais, j'ai l'impression. Florian et ses potes.
Ouais, inspiré et plein d'autodérision comme d'habitude, les Bad Gones ont décidé de dégainer un tweet très Ikea en disant « Malgré nos soucis de mug, on sait qui sont nos tasses. Les Verts. Pas mal.
Voilà. La vraie bonne nouvelle de ce derby, c'est qu'il ne sera pas sur Canal+, du coup, on n'entendra pas Stéphane Guy pleurnicher contre.
Et allez, on avait déjà des problèmes avec téléphone depuis la semaine dernière.
Tu vas te faire virer, toi, hein. ça va pas.
Tu veux pas revenir, toi, hein, vraiment.
On va être les parias du PAF. Et tu vois, là, tu n'aimais pas dire la bande.
Ouais.
Moi, j'aime pas dire le PAF. Et
ouais, dis pas le PAF.
J'ai un frisson.
Allez, une dernière, Swan.
Voilà, bah, on va prendre un peu d'exotisme. On va prendre l'avion. Froid comme le corps de Johnny Hallyday, Aalborg, au Danemark. À Aalborg, on se prépare à recevoir le 3e de la première division danoise qui porte un nom qui va vous dire quelque chose.
Oui.
Nordaland.
Et alors, donc, je me demande où tu vas nous emmener.
Et donc, les supporters ont décidé de dire liberté pour les ultras, sauf ceux qui prétextent la dépression pour s'en sortir.
Je vois bien où tu veux nous emmener.
Samedi, 16h45.
Eh bien, l'équipe de Wigan, rappelez-vous, la grande équipe de Wigan, affronte Rochdale, comme on dit. Les supporters ont un pincement au cœur, parce que les Latics aujourd'hui sont en Ligue 1, donc en 3e division. Oui, depuis, ils sont un peu cassés la gueule. Ils ont connu les joueurs de la première ligue de 2005 à 2013.
Ouais, c'est ça, ils sont descendus il y a trois saisons. Mais.
C'est ça, ils sont bien descendus. Rappelez-vous, à l'époque, ils avaient des bons joueurs comme Emileski. Comme Valencia, puis après tout le monde est parti, puis le club s'est cassé la gueule. Et figurez-vous que Guardiola aurait pu faire partie de ce club, de cette liste d'anciens joueurs. Ouais, Pep Guardiola.
Et quand fin de carrière joueur, c'était quand ça?
Et c'était en 2005, justement. C'est d'ailleurs l'entraîneur de City qui l'a révélé cette semaine en conf de presse, hein, je cite. Oui, Wigan a essayé de me faire venir il y a des années, mais bon, je n'étais pas assez bon. Ouais, c'est la vérité. J'étais vieux, j'étais vraiment trop vieux pour ça. J'ai bien frappé à la porte de Wigan. Je voulais jouer en première ligue, mais ça ne s'est pas fait. Et vraiment, ils ont bien fait. C'était intelligent de leur part. Je n'avais pas du tout le niveau.
plutôt
honnête,
marrant.
Honnête.
Ouais. Autodérision. Ouais. Ouais.
Exactement. Autodérision, modeste. Mmh. Voilà, les journalistes se sont marrés, ils sont conquis, et l'image de gentleman de Guardiola en ressort renforcée. Mmh. Vous voyez bien cette image, hein, le mec a ses classes avec ses costards en laine, fair play avec l'adversaire, mesuré, qui évite les polémiques, admiratif du beau jeu, qui parle allemand pour sa première conf de presse avec le Bayern. Eh bien, mon cul. Oui,
l'icône va tomber, attention.
Mi culo. Parce que Paul Jewell, qui était l'entraîneur de Wigan à l'époque, a donné, lui, sa version des faits. Et il raconte dans le Télégraphe, oui, il a bien eu un coup de fil de Guardiola à l'époque, qui voulait venir, qui connaissait tout de Wigan, les joueurs, la tactique, etc. Mais il raconte donc que Guardiola était chaud et que apparemment ses prétentions salariales, ça matchait avec le club. Donc il se dit...
Ah, donc ça prend le plus plutôt une bonne direction.
On est bien parti. À mon avis, il va signer. Et là, c'est le drame.
Ah,
quelques
alors.
Jours plus tard, il raconte. L'agent de Guardiola m'a appelé deux jours après pour me dire qu'il avait reçu une offre extraordinaire en provenance du Qatar.
Aïe. Quand t'as la tête d'un club et que tu sais qu'il y a une offre du Qatar, t'es pas bien.
C'était donc soit le Qatar, soit Wigan. Alors évidemment, pas facile dans la tête.
On hésite. Hein. Oh là là.
Ça gamberge pas mal. D'un côté, Wigan, une ville du nord d'Angleterre où il peut 350 jours par an.
Oui.
Ou Doha. D'un côté Wigan et ses 24% de chômage chez les jeunes, ou Doha. Donc évidemment, ce qui est marrant, c'est qu'en 2005, Guardiola revenait déjà d'une pige au Qatar. Il avait passé deux saisons là-bas. Et d'après la presse espagnole, il aurait touché 2 millions d'euros net d'impôts par saison.
Ah oui, non, mais en fait, il voulait y retourner parce qu'il était attaché. Il
sûrement.
Était attaché au pays.
Il faut les payer, les costards en laine. Hein,
ben ouais, ça coûte cher. Donc, vous imaginez bien, Wigan, le Qatar, évidemment, il choisit...
Wigan.
Le Mexique.
Ah oui.
Dans une sorte de camoulox de foot, il choisit le Mexique pour aller suivre un entraîneur qu'il aime bien. Il finit par planter Wigan et le Qatar pour s'envoler au pays de la tequila. Comme quoi, il faut toujours se méfier des mecs en costard en laine, surtout ceux qui sont fans de Coldplay.
Samedi, 22h54.
Alors Swan, on le sait peu, mais tu es proche des entraîneurs.
Ouais.
De Ligue 1, d'Europe.
Ils adorent se confier à moi.
C'est ça, ils se confient à toi. Et donc, tu peux donc nous révéler en exclu.
La taille de leur mollet.
Aussi, mais ça, c'est des photos que tu as envoyées à Flo. Mais surtout, ce qu'ils vont dire après match. Et ça, c'est vraiment une exclu pour nous.
Exactement.
Je vous l'offre. Eh ben, allons-y.
Alors, je suis très proche de Christophe Galtier.
Ah, bien sûr.
Voilà, qui est un copain, évidemment.
Normal.
Après son passage à Marseille.
Oui.
Et ses petites bagarres.
Ouais.
Voilà. Donc après la victoire de Lille à domicile face à Angers, je sais pas si vous êtes on n'est pas sans savoir que Lille a des problèmes financiers.
Oui.
Voilà, ils seront très prochainement relégués administrativement en Ligue 2 à l'été prochain si jamais ils ne se sortent pas au moins les sous des poches. Voilà.
C'est ça.
Et du coup, tout colère, Christophe Galtier qui vient d'arriver pour remplacer Marcelo Bielsa à la tête du LOSC a déclaré entre Mamadov qui a fait une cache-car à Lens, Martel qui claquait tout au PMU et là Gérard Lopez qui fait un mauvais remake de Casa de Papel, les millions qu'on va devoir à Bielsa ainsi que Danny Boone, je pense qu'on est dans une région qui souffre assez pour que des gens viennent se foutre de notre gueule. À un moment, il faut que quelqu'un fasse un vrai geste, genre pas nous élire une Miss France tous les ans. Voilà, on connaît ce personnage, hein, Christophe Galtier, pas la langue dans sa poche.
Non, bien sûr, toujours, donc, toujours volubile.
Ouais, j'ai fait jouer également mes racines italiennes, hein, car même si j'ai les yeux bridés, je m'appelle Borsellino.
Oui.
Voilà. Et donc, Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Inter Milan.
Bien sûr.
Était tout énervé après la défaite de l'Inter face à Benevento, le dernier de la Serie A.
Qui ne gagne quasiment jamais. Quoi.
Voilà, mais qui gagne.
Qui vient de gagner.
Pourquoi?
Voilà,
non, face au chèque.
Voilà, exactement.
Chèque diabaté.
Vous m'avez spoilé, c'est cool, les gars. Alors, donc, ouais, l'Inter. C'est une victoire sur les 10 derniers matchs, c'est une sale série, une série qui continue après la défaite surprise donc des Nerazzurri face à la Lanterne Rouge. La faute à un homme, selon Luciano Spalletti. Ce soir, on a perdu face à Cheikh Diabaté.
Ils ont signé Cheikh Diabaté.
Pour rappel, avec un but pour un tir tenté avec son nouveau club, le Cheikh a rappelé que la statistique est très sérieuse, qu'il était l'un des attaquants qui avait le moins besoin d'occasion pour marquer.
100%.
Et ça tombe bien parce que Bakary Sagna a récemment signé à Benevento. Du coup, pour les centres, ça va être plus compliqué.
En même temps, il est très grand, Cheikh Diabaté, donc il peut prendre ses centres.
Si Diabaté marque sur un centre de Sagna, je pense que la Terre change d'axe.
Je pense que Google explose.
Ouais,
c'est possible. Et j'ai travaillé mon anglais aussi.
Ah, voilà.
J'ai
bien.
Été voir le Big Sam Allardyce, donc le gros beauf du nord de l'Angleterre, il faut le dire, qui risque d'avoir des problèmes avec la lycra anglaise, si sous-soi elle existe.
Encore ?
Ouais, en rage après la défaite des siens sur la pelouse de Watford, Big Sam a dérapé. Voilà, il faut le dire.
Une nouvelle fois.
Ouais, en disant tout simplement le football anglais, c'est devenu n'importe quoi. Aujourd'hui, on a pris un but d'un Péruvien, d'un Français, d'un Gabonais et même d'un Italien noir au caca.
C'était Watford, les quatre couleurs primaires.
C'est fou qu'ils connaissent ça.
Ouais, bah, en fait, j'espère que Bruno Vandelli va bien d'ailleurs.
Oui, on l'embrasse.
Une pensée pour lui. Voilà.
J'ai eu un flash. Hein.
Là, je pense qu'il y a certaines personnes qui écoutent qui disent mais de quoi il parle. Alors vous tapez Watford, couleurs primaires.
Et vous verrez.
Et vous verrez un des plus grands moments de télé.
Ouais, là, il m'arrive le pire truc du monde. Quand on explique tes blagues, généralement, ouais. c'est que ça va pas.
Je n'explique pas, je contextualise.
Dimanche, 15h.
Et dimanche, à 15h, dans leur hôtel parisien, les joueurs marseillais se seront retirés dans leur chambre. Mm-hmm. C'est temps calme à l'OM, à quelques heures du début de leur match contre le PSG. La sieste, c'est d'ailleurs un rituel bien connu des footeux.
Oui.
Mais pourquoi aiment-ils autant ce petit dodo sous le plaid l'après-midi ? Florian, tu t'es penché sur la question et tu as voulu savoir pourquoi la sieste était si populaire chez les footballeurs.
Ouais, exactement. Je suis allé voir Patrick Lemoine, le docteur Patrick Lemoine, qui est un spécialiste du sommeil. Il a été consulté par des joueurs de l'Olympique Lyonnais il y a quelques temps. Il n'a pas voulu nous dire qui parce que c'est le secret médical. Mais du coup, il m'a expliqué plein de trucs intéressants sur le sommeil qui fait partie de tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible, en fait, c'est-à-dire l'hygiène de vie, la nutrition, etc. On l'écoute.
Football Recall. Bonjour, je suis Patrick Lemoine, je suis psychiatre, nul n'étant parfait, et particulièrement orienté vers la prise en charge des personnes qui ont des troubles du sommeil. Alors, il faut bien comprendre que le sommeil n'a aucun intérêt si on ne parle pas d'éveil. On n'a pas de bonne nuit si on n'a pas une bonne journée, on n'a pas de bonne journée si on n'a pas une bonne nuit. Donc, par définition, pour qu'un sportif de haut niveau soit en forme, soit performant, il faut qu'il passe de bonnes nuits, sinon ça ne le fera pas. Alors la sieste, il y a de très nombreux aspects à considérer. Le premier aspect, c'est l'aspect universel. Dans l'espèce humaine, quelle que soit la culture, quelle que soit la latitude, il y a un moment autour de 13 heures où il y a un creux de la température corporelle qui entraîne forcément une baisse de vigilance. Donc il y a forcément, qu'on ait mangé ou pas, mais il y a forcément une baisse, une envie de somnolence autour de midi, 13h, 14h. Ensuite, il y a un aspect culturel. Il faut savoir que évidemment, plus les pays sont chauds, comme par exemple autour du Maghreb, ou pour donner un exemple célèbre, l'Andalousie, eh bien là-bas, tout le monde fait la sieste. Donc on va dire, bah, c'est climatique. Et non, parce que leurs voisins de palier, les Portugais, qui ont le même climat, ils font pas la sieste. Donc il y a le climat, mais il y a aussi la culture. Si la sieste est prolongée, c'est-à-dire dure plus de 20 minutes, elle va amputer la nuit suivante. Donc c'est pas une bonne idée. Alors que si je dors 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes, même 15 minutes, eh bien je relance la vigilance. Si un footballeur vient me trouver, eh bien j'essaye d'abord de voir avec lui comment il dort, quand tout va bien, quels sont ses rythmes de sommeil spontanés. Parce qu'il n'y a pas un temps normal de sommeil, hein. Mm-hmm. Il y a juste un temps moyen. Alors la moyenne dans l'humanité c'est 7h30, mais on peut aller très bien avec 5 heures de sommeil par nuit, c'est génétique hein, tout ça, et on peut être très bien avec 10 heures. Donc il n'y a pas un temps normal, mais il y a un temps moyen. Donc chaque personne qui vient de me trouver, je leur dis, quand vous êtes en vacances, tout va bien, spontanément, à quelle heure vous vous endormez, à quelle heure vous vous réveillez. Après je leur demande, est-ce que vous êtes ponctuel ? Les gens me disent oui ou non. S'ils sont ponctuels, en principe c'est des gens du matin, mm-hmm. qu'on ne conseille pas, comme les gens du soir qui ont beaucoup de mal à être à l'heure. Un joueur de foot, comme n'importe qui, il va me dire « je dors de telle heure à telle heure quand tout va bien ». Et maintenant, « oh ben là, il y a la pression, il y a des matchs, on vient d'en perdre deux, je suis très stressé, mon poste est en danger, j'ai peur d'être sur le banc de touche », enfin toutes ces choses qu'on peut entendre. Et à ce moment-là, ma première prescription, c'est de lui dire « vous devez vous lever tous les jours à la même heure, de manière à remettre vos pendules à l'heure et vous endormir ben, quand vous avez sommeil. Hein. Ça ne se commande pas l'endormissement, alors qu'on peut commander le réveil. Et ensuite, je lui dis, chaque fois que vous avez un coup de pompe, chaque fois que vous avez sommeil, eh bien, faites une petite sieste. Football Recall.
Mais il a l'air de s'y connaître, Patrick Lemoine, ce docteur. Il a bossé pour des clubs de foot ?
Ouais, je t'ai dit qu'il avait travaillé pour l'Olympique Lyonnais.
Je t'ai dit qu'il a travaillé pour l'Olympique
ouais,
Lyonnais.
Écoute pas. Et ouais, j'ai aussi appelé un autre docteur qui s'appelle le docteur Juénet, qui lui a été consultant pour Dijon il y a pas longtemps. Et donc
il fait du consulting en sommeil.
Ouais, ouais, c'est un super métier.
La meilleure carotte du monde.
Daruglio, l'actuel entraîneur de Dijon, qui avait de l'intérêt justement pour ça, tout ce qui est entraînement invisible. Mm-hmm. Et donc justement, lui, selon lui, c'est bien de faire la sieste 20-30 minutes, mais il faut pas que ça soit des siestes de 2 heures parce que ça enclenche un mécanisme de sommeil. Donc une sieste de 2 heures, en gros, avant un match, c'est à proscrire.
Ce médecin, donc, il était à Dijon, c'est ça?
Ouais.
Personne ne rebondit. Non, mais c'est ce qui est important, c'est qu'il parle de l'entraînement invisible. Je tenais juste à dire que Ronaldinho était très bon à l'entraînement invisible du PSG. Il faut s'en souvenir.
Mais c'est quoi un entraînement invisible? Tu peux nous expliquer? Parce que ouais, on voit bien la partie visible de l'entraînement et la partie invisible, moins.
Ouais, bah en fait, les footballeurs, donc, ils s'entraînent quoi, 2-3 heures par jour. Et en fait, tout le reste du temps, bon, bah voilà, ils passent devant la télé, forcément. Mais donc,
ça, c'est l'entraînement invisible devant la télé?
Ouais,
très très bon.
En fait, voilà, l'entraînement invisible, c'est tout ce qui est récupération. Donc la nutrition, pas manger n'importe quoi et se reposer.
Faire la sieste.
Mais faire la sieste.
Et est-ce que ça marche comme, en gros, quand tu révisais ton bac, par exemple, on disait, relis 2-3 pages de cours, mm-hmm, tu t'endors et le lendemain, tu les connaîtras par cœur. Est-ce que quand tu fais un entraînement et derrière, tu fais une sieste, est-ce que ça veut dire que tu intègres tous ces nouveaux gestes de l'entraînement?
Alors, bonne
question. On va appeler Jamy.
En revanche, ce qu'ils m'ont dit, ces docteurs, c'est que, par exemple, si tu fais une séance de muscu et derrière tu vas te bourrer la gueule, tu dors pas du tout, et ben, tu vas pas prendre de muscles, ça va servir à rien. Donc, en gros, une nuit de sommeil ou une sieste, ça va te permettre de prendre.
Moi,
du
j'ai
muscle.
Déjà vu sous les diawara torse nu, je peux te dire que c'est pas vrai. Hein. C'est pas.
Est-ce que, mais du coup, t'as fait une grosse enquête? Est-ce que toi-même, tu as fait des siestes pendant quelques mois?
Je t'avoue que pas trop. Je suis pas trop un adepte de la sieste. En revanche, j'ai fait une enquête pour aller plus loin. Ouais. Je peux te dire qu'à l'AS Monaco, ils utilisent la luminothérapie. C'est-à-dire qu'en fait, à l'AS Monaco, ils ont changé toutes les lumières des vestiaires, des salles d'entraînement. Et s'ils ont envie de que le coach fasse une causerie pour bien remuer les joueurs avant un match ou à la mi-temps, ouais, ils mettent une lumière spéciale. Et s'ils ont envie, au contraire, que justement d'apaiser les joueurs, ça va être une lumière plus douce. Voilà.
Et Florent, tu es même allé encore plus loin dans ton enquête sur la sieste, puisque tu t'es rendu à Guingamp.
Ouais.
Et tu es allé à la rencontre d'un joueur de Guingamp.
De Christophe Carbrat, le menhir de l'En Avant Guingamp.
Bon, on écoute le menhir alors.
Football Recall.
Déjà, le jour de match est obligatoire. Moi, il me faut mes 2 heures l'après-midi. Et après, ouais, deux fois dans la semaine, ça me paraît plutôt pas mal. Et après, je me couche pas très très tard la semaine non plus, donc. Si je faisais pas la sieste, ouais, je serais une vraie pile. Parce que je boirais du café à gogo, voilà, je prendrais des vitamines et tout ça. Donc la sieste, je pense que ça me permet de me canaliser et voilà, garder de l'énergie. Ouais.
Et quand tu étais à Plavennec au début de ta carrière, est-ce que tu faisais déjà la sieste ou c'est arrivé quand tu es venu à Guingamp à 25 ans?
À Plavennec, je faisais pas la sieste. Lors de la sieste, on faisait les jeux à gratter au café avant d'aller au match.
Est-ce que les entraîneurs, ils arrivent à surveiller les joueurs par rapport à la sieste?
Surveiller, c'est impossible. Après, on est tous adultes dans le vestiaire. On n'est pas à l'école. On travaille vraiment pour soi. Donc voilà, il faut savoir ce que tu veux. Après, peut-être qu'un jeune, il a besoin moins aussi qu'un mec de plus de 30 ans de se reposer à telle ou telle heure ou un peu moins de sommeil. Mais voilà, je pense que chacun est assez grand pour se prendre en charge.
Football Recall.
Christophe Kerbras, s'il ne dort pas, il est une pile électrique. Donc s'il ne dort pas, il prend du café, il fait le contraire.
Donc ouais, vous venez d'entendre le casting de Romain Duris dans le prochain film de Cédric Lapiche sur la sieste.
ça s'appellera Paris 13h30, je crois. Hein, je crois que c'est ça.
Est-ce qu'il y a des joueurs connus qui sont adeptes de la sieste, mais au niveau pro, quoi, genre, ouais. Ils font 2-3 heures de...
Bah, je vais pas te mentir, à la rédaction, à chaque fois qu'on appelle Stéphane Cessaignon, je crois qu'il fait la sieste.
Ah oui, d'accord.
Ah, carrément, tu balances outing des joueurs.
Stéphane Cessaignon.
Il va se faire virer à cause de toi.
Il y a Kondogbia dans le dernier
secours. Et allez,
qui raconte qu'à 17 ans, il dit « Je faisais des siestes des nuits de 12 à 14 heures. C'était comme ça presque tous les jours. Un grand malade du sommeil. »
Il y a aussi Lionel Messi. En fait, j'aimerais qu'on cite un blanc quand même
pour toujours cette histoire de...
Non, il y a Lionel Messi, connu pour avoir une vie assez peu trépidante aussi. C'était dans une enquête de SoFoot qui, voilà, dès qu'il est chez lui, le gars fait la sieste. Quoi. Donc,
Bon, désolé Swan, moi j'ai Blaise Matuidi.
Matuidi, c'est belge. Blaise Matuidi.
Tu viens de Lorraine, apparemment.
Blaise Matuidi qui lui dit qu'il ne peut pas s'endormir avant 5h du mat après un match en soirée. Genre un match en prime à 21h, il peut pas dormir jusqu'à 5h.
Après les matchs, ça c'est normal ça. C'est
hyper dur.
Ouais, c'est le stress, c'est la retombée d'adrénaline.
Oui, bah ça va, je fais pas de sport. Je ne suis pas au courant.
T'es pas stressé toi?
Non.
Ok.
Dimanche, 16h15.
Bon alors les gars, à 16h15 dimanche, faudra goûter léger. Parce que derrière, il y aura festin de foot.
Du lourd.
Lourd. Lyon-Saint-Etienne, 17h, PSG-OM, 21h. Alors, c'est pas mal, parce que le hasard du calendrier de Ligue 1 a mis, du coup, en compète les deux grosses affiches du foot français.
Ouais.
Et bon, on a vu que c'est le PSG-OM qui l'emporte. Ouais.
Oui, dimanche soir.
Ouais. À mon avis, ça doit gueuler un peu, du côté des fans de Lyon ou des fans de...
Jean-Michel Aulas, sûrement.
Ouais. Ouais. Ça va pas être très
sur
content.
Twitter.
Bon, alors, vous savez comme j'aime les jeux.
Ah, Patrick Roy, allons-y.
C'est des références à chaque fois un peu datées.
Oui,
quand
des
même,
gens qui sont morts.
La mer noire.
Donc, les jeux.
La mer noire.
Je vous en propose un nouveau cette semaine.
La mer noire.
Oui, bah oui.
C'est la mer noire.
Alors, il n'y a pas la mer noire dans les propositions. Donc, je vais vous donner des anecdotes de match. Et vous me dites si ça s'est passé pendant un Lyon-Synthé ou un PSG-OM.
Ok, le petit jeu.
On a compris ?
Allez.
On y va. Mars 2006, des joueurs qui évoluent en 4ème division et qui ne sont habituellement même
PSG
pas...
PSG-Marseille, les Minots.
Oui, les Minots.
Et deux mois après, on les bat en finale de Coupe de France.
Apparemment, Florian est joueur du Paris Saint-Germain.
Tu fais partie du staff, peut-être, non ?
Ouais, et il est superviseur de Mollet.
Je tiens à dire que ça m'a coûté d'écrire à chaque fois ces petits récits. Ouais. Donc, si on peut aller au bout, ça m'arrange.
On va tout foutre en l'air.
Voilà. Donc, effectivement, c'était la victoire, le match nul des Minots. J'ai failli dire victoire parce que c'est encore fêté comme une victoire.
Anigo
Anigo et ouais. Pabiouf qui avait insisté pour que les Minots soient. Ouais.
Et Christian Rodriguez qui se fait sortir par Paul Le Guen ou Guy Lacombe à la demi-heure de jeu. C'était un scandale.
Un détail essentiel.
Ouais.
Et donc, en fait, Pabiouf avait envoyé l'équipe de CFA2 parce qu'il protestait contre le nombre de places autorisées par le PSG pour les supporters de l'OM.
Ouais, alloué, ouais.
Mais envoyer les Minots, c'est un peu l'équivalent en tennis de servir à la cuillère, j'ai l'impression.
Oui, ou d'aligner.
Je suis très stade 2, hein, je sais pas ce que j'ai en ce moment, c'est fou.
Merci Patrick Montel.
Bon, on passe à la deuxième anecdote.
Allez, ouais.
On te laisse finir du coup. Hein.
En plus, c'est pas long, donc laissez-moi terminer. Ouais. En 2007, énorme tifo en tribune, on y voit des animaux.
Saint-Etienne. Tuez-les.
Je crois que Mathieu va pleurer, je crois.
Donc je finis.
Okay.
Donc énorme tifo avec des animaux sauvages sur lesquels on avait inscrit les noms des joueurs adverses, donc des joueurs lyonnais. Et en dessous, le message, la chasse est ouverte, tuez-les.
Vas-y Florian.
Alors Florian, vas-y, le score de ce match.
Je pense que Lyon les a défoncés parce que c'était l'époque où Saint-Etienne était relativement nul et Lyon roulait sur le championnat.
Voilà, Lyon avait gagné 3-1.
Oui.
Et les Magic Fans, donc, qui étaient à l'origine du tifo, avaient écopé d'une amende de 500 euros avec sursis.
Et les noms, c'était quoi les noms ?
Les noms.
Les noms de...
C'était les noms des joueurs.
C'était les noms des joueurs sur une antilope, un éléphant, un crocodile.
500 euros avec sursis d'amende. C'était une carte du Monopoly.
On a connu pire. Ok, allez.
Je poursuis. Nous sommes en novembre 2015. L'attaquant numéro 1 est blessé par un vilain tacle d'un joueur adverse.
PSG.
En même temps.
On a une chance sur deux. Bah oui, c'est toi qui fais les règles. Donc j'ai dit ça.
Et pas de bol, Thomas, t'as voulu faire le malin, t'as perdu.
Ah merde.
Donc rupture des ligaments croisés, fin de saison, début de baston sur le terrain et à la fin du match, un coéquipier de cet attaquant blessé hurle devant les caméras. Ouvrez les guillemets. Je sais où il habite, sa meuf lui mettait des claques au lycée et il fait le fou, je vais l'enculer.
C'est Tolisso le...
Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est Robert Berić qui s'était fait tacler par Jordan Ferry.
Ouais.
Les deux sont toujours d'ailleurs à Saint-Etienne. Berić est à Saint-Etienne, Ferry est à Lyon, il est remplaçant, mais il est à Lyon.
Ouais.
Lyon avait gagné 3-0 avec un triplé de Lacazette et Pierre-Yves Paloma,
l'illustre,
de Saint-Etienne, avait hurlé ça à Corentin Tolisso et... Si vous voulez, on écoute le son, il faut tendre l'oreille,
oui.
Mais on l'entend plutôt bien.
La vie de ma mère, si il habite tout le zoo. Sa mère fait lui mettre des claques au lycée, il fait le zoo. L'enculé, c'est ça.
Ah, les derbies!
La poésie!
Moi,
j'aime beaucoup, sa meuf lui mettait des claques au lycée.
Ouais. Oui,
et il fait le fou.
Un outing, c'est un outing.
C'est pas mal.
Quoi. Prends ça le rugby.
Allez, un dernier pour la route.
Ouais.
Laissez-moi terminer.
Oui, oui. Ouais.
Les joueurs visiteurs prennent possession de leur vestiaire, mais une très forte odeur les oblige à ressortir et à se changer dans le couloir. À ce moment-là, arrive l'actrice et comédienne Clara Morgan en tenue sexy.
les joueurs déconcentrés s'inclineront 1-0.
PSG Marseille.
C'est au Vélodrome.
PSG Marseille. C'est Modeste Mbami qui avait raconté ça, qui jouait à l'époque au PSG, qui avait raconté que l'OM avait aspergé d'ammoniac les vestiaires. José Anigo avait dit ce sont des conneries, je le jure.
Mais si t'as pas le droit, si t'as pas le droit de respecter tes adversaires en nettoyant le vestiaire, moi je vois pas de.
Ce sont des conneries, je le jure. Comment ça, quelle bouteille? Oui, oh, la parole, ça va être un peu de parfum. Bon.
Et au rayon des démentis, Clara Morgan avait affirmé n'avoir croisé aucun joueur du PSG ou de l'OM. Elle avait pas affirmé qu'elle n'était pas en tenue sexy. Elle a affirmé qu'elle avait croisé aucun joueur du PSG ou de l'OM.
Ça va, on a tous vu 3-0, on sait comment ça. Hein.
Comment ça se termine? C'est la fin du petit jeu?
C'est la fin du petit jeu.
Ah.
Football Recall.
Et voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de ce week-end à venir. Vous savez déjà tout, mais si vous avez quand même 2 heures à tuer, on vous conseille le match à ne surtout pas manquer. C'est le guide du week-end. Alors, qui commence? Florian?
Allez, ouais. Bah, moi, je vais vous reparler du derby, forcément. Dimanche, 17h, vous avez tous pris rendez-vous. C'est quel match?
Oui, pardon.
Bah, c'est Lyon, c'est Lyon, Lyon-Saint-Etienne.
Eh ben non, c'est Beşiktaş-Fenerbahçe.
Le derby d'Istanbul. Le russe de derby.
C'est un match au couteau. Donc, faut savoir que.
Avec des couteaux, les joueurs. C'est vrai,
en fait. En tête du championnat de Turquie, Başakşehir, Gala, Fener et Beşiktaş se tiennent en 5 points.
Waouh, et là, il nous a séché grand corps malade. Voilà, le slam.
Toi, t'as mangé un kebab il y a pas longtemps.
Lundi.
Ah, bah tu vois.
Sauce blanche.
Comme ça.
C'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de Valbuena.
De Pascal Doma aussi. Hein.
Dira. Roberto Soldado. En face, Gary Medel, Pep, Quaresma, Wagner Love. Et puis c'est un derby archi bouillant.
C'était Vianney au Zénith de Paris.
Il faut savoir qu'en 2013, les fans de Beşiktaş sont rentrés dans le livre des records avec 141 décibels. Donc en fait, ils ont fait le record de bruit dans un stade de sport. Et 141 décibels, c'est quand même l'équivalent d'un avion au décollage.
Donc c'est 17h?
Ouais, 17h avec sûrement ce barjo de Pascal Nouma sur Beansport. Il n'est pas à l'abri d'insulter les fans.
Diffusé dans tous les bons grecs de quartier. Hein.
Les fans de Fenerbahçe. Donc ouais, Pascal Nouma qui avait insulté quand même les fans de Galatasaray lors du dernier derby sur Beansport, un moment extraordinaire.
Ah, beau moment. Mathieu?
Alors, moi j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y a beaucoup de matchs à mater dimanche après-midi.
Ouais.
J'ai beaucoup hésité, mais j'ai choisi Manchester City-Arsenal.
Ah.
Eh oui, parce que c'est la finale de la League Cup et donc c'est le premier trophée à être remis cette saison. Mm-hmm. Donc quand même une finale, on va pas louper ça.
En jeu.
Et parce que City vient de se faire sortir par Wigan, on parlait de Wigan tout à l'heure, en Cup. Donc Wigan 3ème division qui sort City en Cup et que Guardiola du coup doit avoir bien les boules parce qu'il voulait gagner tous les trophées cette saison. Et City qui a les boules, City claque à mon avis 3-4 voire 5-6 buts, ce qui tourne à une moyenne de 3-4 buts par match quand ils sont calmes et pas énervés. Et voilà, puis une dernière petite raison, parce que finalement Arsenal a l'occasion de faire taire les rageux en décrochant un 4ème titre en 5 ans. Et oui, parce qu'on dit toujours Arsenal, c'est la lose, etc. Oui, mais quand même, 4ème titre en 5 ans.
Ouais.
Voilà, donc c'était Manchester City Arsenal, c'est à 17h30 sur beIN Sport 2.
Swan, t'as recours.
Moi, je vais être super original.
Je sais pas ce que tu vas dire.
Ouais, je vais me concentrer sur le PSG-OM pour deux bonnes raisons.
Ah.
La première, c'est qu'il y a eu un 2-2 incroyable à l'aller au Vélodrome. Et que
arraché à la dernière minute.
Un coup franc de Cavani, magnifique.
Au buzzer. Ouais,
il m'a fait mal au buzzer, celui-là.
Au buzzer.
Et à une époque où Marseille jouait pas très bien.
Ouais.
Et ensuite, parce que la dernière victoire de l'OM face au PSG remonte au 27 novembre 2011. Donc ça commence à faire un certain temps, une époque où le Costa Concordia flottait encore, où Gangnam Style était le tube,
oh putain,
et où Jean-Luc Delarue respirait encore et ne faisait pas que respirer.
Martin
avec son
Fourcade dominait déjà le biathlon par contre.
Voilà, exactement.
Donc ok, PSG Marseille.
Thomas, ton match.
On y est. Alors, encore une fois, je vais pas.
Le pari et le Valois.
Avoir un match. Non, c'est pas presque. Tu vas voir. C'est pas un match spécifique. Ce sont des matchs.
D'accord.
Je vous conseille de ne pas rater les matchs amateurs du Pays Basque.
Les matchs amateurs du Pays Basque.
Avec Pontis Syriex.
Côté espagnol. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques jours, un arbitre aurait menacé des joueurs. Déjà, c'est un fait assez rare. Et pour un motif bien particulier, il aurait dit si l'un d'entre vous parle basque, je l'expulse.
On sait où est Tony Chaperon en vacances ?
Alors, justement, déjà, un, la menace est hyper chelou quand même, t'as le droit de parler basque. Et alors, deux, le problème, c'est que le match a eu lieu au Pays Basque.
Ah oui,
alors,
du coup, les mecs parlaient pas.
Voilà. Comment on fait ? Et alors, oui, c'était entre Idiazabal et Elgoibar. Au final, personne n'a été expulsé. Mais la polémique a enflé évidemment après coup. Les dirigeants des deux clubs ont trouvé ça lamentable. Un député local s'en est mêlé évidemment en disant, je cite, que c'était un manque de respect envers la langue et l'héritage basque, etc. Il manquait plus qu'une déclaration de Laurent Wauquiez et on était bien.
Hein. Il était occupé, malheureusement.
Voilà, apparemment. De son côté, l'arbitre qui est andalou, c'est important, s'est exprimé quelques jours après et il a dit, je cite, je vis au Pays Basque depuis novembre et je répète la même chose à chaque match. S'il vous plaît, ne me parlez pas en basque. Parlez-moi plutôt en castillan, parce que je ne comprends pas.
Ah, d'accord.
Alors, d'après France Bleu, toujours très bien informé, vu le sport sur France Bleu, le même arbitre aurait déjà fait les mêmes menaces une semaine avant, auprès des jeunes de Irun.
Ah, d'accord, il aura redit, mais alors c'est des menaces ou de, parce qu'il peut juste demander
justement, parler. On ne sait pas, et du coup, je me suis dit que ça allait être un sacré bordel le week-end prochain s'il allait arbitrer encore en disant, en étant un peu parano, quoi, en disant, excuse-moi, toi là-bas, viens voir, qu'est-ce que t'as dit là en basque là? J'ai dit, donne-moi la balle, Gaïksa. Pardon? Et toi là-bas, t'as dit quoi? Bah, j'ai dit, vas-y, Pachi. Ah, ok, vous foutez de ma gueule, hein, vous avez des pseudos espagnols. Allez, rouge et rouge, zou, et rideau.
Et c'est sur Beansport 27.
Oui, cherchez-le bien.
Championnat amateur du Pays Basque espagnol.
Football Recall.
Merci d'avoir écouté Football Recall. Grâce à ce podcast, vous savez déjà ce qui va se passer sur les terrains ce week-end.
Ouais.
Alors lâchez le foot et gavez-vous de saut à ski de short track parce qu'après c'est rideau, ceinture pendant 4 ans.
Hein. Oh dommage. Non, il reste Eurosport 2.
Oui,
il y aura du snooker.
On se retrouve la semaine prochaine dès jeudi matin sur Deezer et sur le site de SoFoot.
Merci Swan.
Merci à vous les gars.
Merci Florian.
Merci à vous aussi.
À jeudi prochain. Surtout n'oubliez pas, Football Recall, c'est toujours moins chiant qu'un film de Claude Chabrol.
Et prenez soin de vos mollets.
Football Recall.
Messieurs, dames, place aux enchères, 10h. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe, 12 millions. 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau.
Abonnez-vous à Deezer Premium Plus et profitez de plus de 43 millions de titres sans aucune contrainte, même sans réseau. Deezer, le streaming made in France.